Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Ça sera la dernière de la saison puisqu'après on va partir en vacances et on se retrouvera à la rentrée au mois de septembre avec probablement les conseils de lecture d'un libraire bien avisé ou d'une libraire bien avisée. Aujourd'hui, je suis avec Maxime que je connais depuis 3-4 ans. On a travaillé ensemble quand il pratique son travail de lettreur, mais je ne suis pas là pour parler lettrage, ni lettres, ni mise en forme, mise en page. On est là pour parler de son travail de dessinateur, parce qu'il sort la semaine prochaine, le 4 juillet, un album absolument fascinant et détonnant. Il va nous en parler tranquillement, on va évoquer cet album. Mais avant tout, Maxime, bonjour. Et je te pose la question rituelle qui ouvre toutes mes émissions. Mais qui es-tu ?
Bonjour Stéphane, et puis bonjour aussi aux auditeurs. Alors, merci Maxime, oui en effet. Mais mon nom d'artiste c'est Maxima, je suis un jeune auteur de 32 ans. Comme disait Stéphane, je fais aussi de la presta pour la bande dessinée, je fais du lettrage, je fais les bulles. Je suis aussi animateur artistique à mes heures perdues. Et écoutez, voilà tout. Solitude va sortir aux éditions Omak et Books pour être plus spécifique. Et si vous voulez en savoir un petit peu sur mon éducation, sur mon parcours scolaire, c'est que dans un premier temps, j'ai fait une école d'art contemporain à Toulon. J'ai eu ensuite mon diplôme, c'était un plus 3, que j'ai eu une licence, un DNAP. Et ensuite, j'ai déménagé à Angoulême et je suis passé à Human Academy, à l'école de manga, où là encore, j'ai fait 3 ans. Ensuite, j'enchaîne, j'ai eu la chance d'être convié à intégrer l'atelier du Marquis de Crocogoul, où là, les professionnels qui étaient là-bas m'ont aidé à tout simplement faire mes premières abs, notamment l'ami Antoine Ozanam, que je salue s'il nous écoute. Et c'est marrant parce que la typo de Solitude, c'est Antoine qui l'a créé. Voilà, pour les présentations.
Et Antoine, je l'avais interrogé pour son album sur l'Ouest et sur l'Amérique. Voilà, c'était un bel album, l'album qu'il avait fait avec Bandini. Avant de parler de ton album, et c'est quand même connexe, quand on regarde ton site, on découvre que tu as passé un certain temps au Japon.
Alors oui, un petit peu de temps, en effet.
Que faisais-tu au Japon ?
Ce que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tourisme, malheureusement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement démarché les éditeurs de manga pour voir un petit peu, pour prendre la température. Est-ce qu'éventuellement, il y a une chance de faire du manga là-bas ? Et déjà, à l'époque, j'avais un style qui détonnait pas mal avec ce qui se fait de façon mainstream dans l'industrie du manga. Donc, j'ai eu des retours dans l'ensemble très constructifs, aucun problème là-dessus, qui variaient beaucoup, qui pouvaient être dus à « non, c'est clairement pas notre ligne éditoriale, nous, on ne peut rien en faire, et peut-être que ce qui est plus pertinent pour vous, c'est de vous faire éditer en France, et peut-être qu'ensuite, ça pourra s'exporter. » D'autres m'ont dit « moi, ça, ce que tu fais, ça me fait penser à peut-être dans la... à Blame, alors, Blame de... aux éditions Glénat, en France. Peut-être pas par le dessin, peut-être pas par la façon dont on raconte quelque chose, mais tout simplement parce qu'il y a un parti pris peut-être artistique fort. Et cet éditeur-là, qui était le plus expérimenté de ceux que j'ai rencontrés, m'a dit en fait, vas-y à fond. Les contrastes, c'est-à-dire que le dessin, un petit peu illustration enfance que tu as, encore plus enfance, et ce côté gore, un peu dégueulasse, un peu viscéral, pousse-le encore plus pour créer un contraste plus fort encore. Quoi. Voilà, c'était un petit résumé de mon séjour au Japon.
Et quand tu débarques au Japon, disons, je fais du manga, quel est le regard des Japonais sur cette proposition?
Alors, encore une fois, il y a eu tout. Il y a eu le regard de l'éditeur qui comprenait absolument pas ce que je foutais là. Vraiment, qui me regardait comme si j'étais une espèce d'alien. Et c'était, avec du recul, c'est très drôle. D'autres, au contraire, qui m'ont dit qu'il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait vraiment quelque chose de possible à faire, tant en France qu'au Japon. Il y avait un éditeur, notamment, qui m'avait dit que ça pouvait être intéressant à prendre avec des pincettes, hein, mais ce qui pouvait être intéressant, c'était de faire un peu comme aller Jeanne d'Arc au Japon, quoi. Mmh. Et c'était pour moi encore aujourd'hui, c'est une drôle d'idée, mais je comprends qu'il ait voulu me mettre un petit peu dans cette optique. Comment est-ce que je pourrais m'intégrer, me faire une place dans le marché japonais si besoin?
Bon, cela dit, il y a un manga qui est sorti il y a quelques mois qui est Marie-Antoinette Bodybuilding.
Donc, tu vois... Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est, si on est français, qu'on fait un manga au Japon, bah, selon cet éditeur-là, peut-être que l'idée c'était profite du fait que tu es français pour nous parler de la France dans un contexte un peu décalé. Et tout de suite, tu peux aussi penser à Terma et Romae. Je sais pas si tu que ouais voilà c'est peut-être que c'était un peu dans cette veine là qu'on m'avait fait la proposition.
Voilà, on va parler de ton album qui s'appelle Solitude.
Ouais.
Mmh. Tu as cité tout à l'heure l'éditeur. C'est un album assez assez troublant parce que ça peut commencer comme un espèce d'album enfantin. Très très vite on va passer dans un autre monde. Je dévoile un tout petit peu le début. C'est une petite fille qui a un peu un corps de robot, mais un corps de petite fille en même temps. On ne sait pas trop si elle porte une armure ou si c'est un être un peu hybride qui chasse des lapins dans la forêt parce qu'elle doit nourrir sa famille. Je résume, hein, mais c'est un peu ça le début. Et bah, c'est compliqué de chasser des lapins quand on est une petite fille et ils n'ont rien à manger. Comment tu as imaginé cette histoire et est-ce que tu peux nous dévoiler un tout petit peu la suite sans raconter évidemment quoi?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, comment m'est venue l'idée de cette histoire? C'est tout simplement que j'ai des thématiques qui me travaillent beaucoup depuis toujours. Moi-même, quand j'étais gamin, j'ai perdu un de mes parents très très tôt dans ma vie. Et puis cet album, je m'étais dit, ça va être un peu ma façon d'extérioriser ce trauma que j'ai jamais vraiment réussi. Donc voilà. Pourquoi cet univers un peu hybride, un peu décalé, un peu bas, tout simplement, plus que de créer un scénario cohérent, parce que de toute façon, vous allez le voir dans cet album, on est dans un contexte post-apocalyptique où il n'y a quasiment plus d'êtres humains. Mais en même temps, Hélène, donc la protagoniste dont vous a parlé Stéphane à l'instant, c'est une petite fille de 11 ans, une ado, pas très très jeune ado, quoi, de 11 ans, qui vit seule avec sa mère dans un chalet tout équipé. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a rien à l'extérieur, enfin, faut aller chasser pour manger. Donc c'est un peu particulier. On se dit, ben, pourquoi? Quelles sont les raisons? Je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas les réponses en lisant cet album. Ce n'est pas le but. Ce qui était important pour moi, c'était Hélène, qui a 11 ans, comment elle évolue dans un contexte où il n'y a plus rien et où elle va tout perdre. Et où tout ce qui restera à cette jeune fille, eh bien, c'est la vengeance, c'est la violence.
Oui, c'est aussi une violence, donc on raconte pas, mais effectivement, au bout d'un moment, ça part, on va dire, ça part en vrille, parce que son univers, l'univers ne disparaît pas, mais le monde auquel elle tient, le monde qu'elle connaît, va lui échapper complètement, pour tout un tas de raisons. Là aussi, surtout, faut pas le dévoiler, parce que c'est des moments très importants. Et ce qui est très troublant, c'est qu'elle est toute seule et qu'elle veut quand même se venger. Ça, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup intrigué. C'est ce qui, notamment, m'a fait aller le plus loin possible dans l'histoire en me disant, mais voilà, quand t'es tout seul, tu te venges contre quoi, quoi? À quoi ça va servir?
Ben ouais, tout à fait. Ben c'est... Alors, j'ai pas tout perdu dans mon enfance, faut pas déconner non plus. Mais c'est là où je me mets un petit peu dans la peau du personnage. Si à 11 ans, je n'avais plus rien, je me raccrocherais à ce que je peux. Et en l'état, c'est la colère, tout simplement parce que c'est sa personnalité. Hein, et quelque part, c'est un petit peu la mienne aussi. Elle, ce qui prévaut, c'est la colère. Donc, elle s'est accrochée à ça comme elle a pu. Tout simplement, jusqu'à ce que cette colère ne soit plus. Ouais. Et voilà, quand la colère n'est plus, ça y est, elle peut vraiment faire face à elle-même, à qui elle est, à ses traumas, à ce qu'elle a perdu, et aller de l'avant.
Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est dans tout l'album, c'est le rapport à la nature. Parce qu'effectivement, elle est dans une maison tout équipée. Au début, on trouve ça un peu étrange. Il y a des fours, des cuisinières. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vivre une vie moderne. En même temps, elle est... Alors, je ne sais pas si elle porte une armure ou si elle est semi-robot. Ça, tu peux peut-être nous le dire. Mais la nature est omniprésente. J'ai trouvé que c'était aussi à la fois, c'est un conte personnel, un conte de vengeance, un conte de quête. Mais c'est aussi, j'ai trouvé un conte écologique.
Oui, c'est tout à fait possible. Alors, ce n'était pas forcément l'intention. C'est tout simplement, pour ma part, c'est que j'ai un vrai plaisir à explorer. Je voulais aussi me dépasser dans cet album, tout simplement au niveau du dessin. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller dans la représentation de la nature. Je voulais voir comment je pouvais la colorer, etc. Donc, à la base, c'est quelque chose d'assez formel, finalement. C'est un défi d'artiste qui veut se dépasser, hein, ni plus ni moins. Mais finalement, pareil, hein, avec les retours que j'ai eus, oui, il y a cette portée écologiste. Il y a aussi la violence faites aux enfants, dont on parle dans cet album. Et finalement, ce propos auquel je n'avais pas tout à fait pensé à la base, mais finalement, ça m'échappe. Ça crée un narratif, finalement, beaucoup de finalement, excusez-moi, qui est tout aussi intéressant. Et pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas laisser s'échapper comme ça des éléments auxquels je n'avais pas pensé.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a peu d'auteurs qui le disent, en fait. Souvent, on a l'impression qu'ils contrôlent beaucoup de choses, mais le lecteur est vraiment un acteur très puissant des bandes dessinées. Ça m'est vraiment apparu en lisant ton histoire.
Alors, et aussi, pourquoi il y a des choses qui m'échappent, c'est tout simplement que sur cette histoire, je n'avais pas vraiment de scénario. J'avais un synopsis, on va dire sur 2-3 pages, j'avais un synopsis. Il va se passer ça et ça sur tant de pages. Et j'ai besoin aussi d'avoir en tout cas sur cet album-là, j'avais besoin d'avoir cette liberté de laisser l'imprévu arriver, finalement, pour dégager les thématiques dont tu as parlé juste avant.
Mais ça se sent vraiment, ça aussi c'était une question que je voulais te poser, c'était comment tu écrivais ton histoire. Parce que là aussi, quand on lit les pages, quand on avance, on a quasiment l'impression que par moments c'est de l'improvisation.
Oui. Ah, mais il y a de ça. Il y a définitivement de ça. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, mettons l'élément perturbateur, je sais qu'il va faire, 20 pages, 30 pages, peu importe. Et à partir de ça, je me construis ça comme si c'était une histoire en elle-même. Voilà, dans l'élément perturbateur, t'as l'introduction, ceci, le cela, bref. La structure classique des histoires. Et je me fixe cette limite-là et puis je vais faire mon storyboard. Tu sais quoi, même les dialogues, je les improvise au fur et à mesure. C'est pour ça que ça parle peu aussi. Parce que j'ai voulu me laisser cette liberté de laisser le personnage parler. Quand c'était nécessaire, quand il y avait quelque chose à exprimer de sa part.
Ouais, ça se voit. Alors, effectivement, c'est pas une BD bavarde. Ceux qui aiment les bulles et qui aiment le texte vont être un peu frustrés, mais après, on a déjà travaillé ensemble, moi, je suis aussi très sensible, comme beaucoup de gens qui aiment la bande dessinée, au dessin. Et là, on en prend plein la vue. Moi, je trouve que le dessin est admirable. Il est inventif dans le cadrage, dans les gros plans, les plans plus éloignés. Enfin, j'ai trouvé ça assez virtuose dans la construction. Je te fais des compliments, mais c'est vraiment.
Je te remercie, hein, je te remercie.
C'est vraiment important. Parce que là aussi, ça fait partie du charme, parce que c'est une bande dessinée quand même très dure. Il y a des dessins, on va dire quand même, c'est sanglant, c'est sanguinolent, la petite fille se venge. Mais il y a toujours ce plaisir du dessin, il y a toujours aussi un petit côté humoristique. Même dans les scènes les plus dramatiques, il y a toujours un regard, il y a toujours une petite caricature, il y a toujours quelque chose qui permet de s'échapper.
Oui. Non, c'est vrai qu'il y a des expressions qui sont... très très exagéré. Parfois, il y a aussi tu parlais la chasse des lapins. Littéralement, le lapin, vous verrez, première page, on voit le lapin, on dirait un Pikachu quoi. Enfin, c'est. Oui. Des fois, il y a des lianes sur lesquelles on peut s'accrocher pour prendre un petit peu de la distance par rapport à ce qu'on voit. Puis tout simplement, il y a dans les scènes gore en question, il y a aussi ce côté un peu slasher, un peu parfois, puisque jouissif serait le bon terme d'après toi.
Ah ben oui, sans problème.
Oui, voilà.
Donc, parce que quand on lit, à la fois on comprend ce que cette petite fille ressent et ce qu'elle fait, on le comprend bien et on est derrière elle, on est avec elle, il y a énormément d'empathie avec ce personnage, il n'y a pas de souci. Mais les scènes gore sont gore, donc elles sont exagérées, elles sont totalement irréalistes, il y a du sang, il y a des tripes, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est aussi ce qu'on aime dans les films de zombies. Voilà, la jubilation, elle vient de là, on a une histoire très sensible, et quand on t'écoute, on voit que c'est sensible pour toi, mais en même temps, il y a la jouissance de ces scènes où on se dit non, c'est pas possible, mais quel pied de voir ces images, quoi.
C'est que moi-même j'en avais besoin, quoi. Si je fais qu'une histoire sensible, qui me rappelle tout un tas de choses de mon passé, à un moment donné, tu fais ta BD, tu te tires une balle dans la tête, quoi. C'est plus possible, un truc pareil. C'est... C'est aussi une façon pour moi, tout comme pour le lecteur, je l'espère, de prendre un peu de distance.
Alors, on disait ça aussi avant de commencer à enregistrer. C'est une BD qui n'est pas très longue, elle fait 60 pages.
Quoi. Alors, ouais, 60, le livre fait 64 pages, mais il y a 61 planches, précisément.
Donc, on a envie d'en voir plus. En fait, le dessin est tellement chouette qu'on se dit, ah, j'aurais bien encore pris 3-4 pages de plus. Quoi.
Ouais, là, 3-4. Peut-être même encore plus, peut-être même un tome 2, un tome 2, ça serait bien. Mais chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour qu'il y ait un espoir d'un tome 2. Ouais, alors, je tourne ça, j'en ai profité. Maintenant, la vraie réponse par rapport à ça, c'est aussi du fait qu'il y ait peu de texte. Ça vient aussi de mon éducation dans le manga, où il y a une vraie philosophie du page-turner, qu'on vous donne envie sans cesse de tourner la page, avec une mise en scène qui peut être osée, des compositions dynamiques. Ce qui fait qu'on a une BD qui a un rythme soutenu, qui va vite, et qui vous tient en haleine. Et des résultats, on arrive à la fin... Ah purée, on en veut plus. Ça, c'est le retour unanime que j'ai eu. Et vous savez quoi ? Moi aussi, j'en veux plus. Moi aussi, j'en veux plus.
Oui, parce que c'est une qualité, en fait. Ça veut dire qu'on ne s'est pas ennuyé, qu'on a...
Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'était pas facile, hein, attention. Hein, j'en ai chié. Mais c'était... c'est très intéressant de travailler comme ça.
Pour parler de ton style, donc effectivement, c'est un style manga, mais... où on sent dans les cadrages, dans le dynamisme des mises en scène, des personnages, mais c'est aussi un style qui fait partie du roman graphique et on va dire de la bande dessinée actuelle. Tu arrives à avoir un chemin très, très balisé, très créatif entre les deux. Tu ne tombes jamais ni dans l'un ni dans l'autre. Ça, j'ai trouvé que c'était une vraie richesse. Je ne suis pas un grand lecteur de manga, parce que tout bêtement, je n'ai pas le temps d'en lire. Hein. On lit déjà plein de trucs. Mais là, t'es sur un chemin assez fin et assez séduisant.
Eh bien, je te remercie. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours voulu surfer sur ces limites-là entre le manga et la franco-belge, le roman graphique. J'ai le sentiment que c'est le cas de pas mal d'auteurs de ma génération. Peut-être que tu as vu des romans graphiques passer, ou par exemple, mince, chez Glénat, je me souviens plus de son nom à cet auteur-là, mais il a un bon succès en ce moment.
Ça raconte quoi?
Ah, je me souviens plus du tout, c'est terrible. Hein. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, des auteurs qui sont dans une démarche semblable à la mienne. Est-ce que c'est quelque chose de générationnel? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Hein.
Ouais, je sais pas. Moi, franchement, ce que tu produis, je l'ai jamais vu ailleurs.
Bon. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un style atypique.
Quoi qu'il arrive,
ça c'est sûr.
En plus, tu mixes à la fois un travail sur la photo, parce que toutes les scènes de nature sont des photos, c'est évident. Ouais, donc, t'arrives à mixer un vrai travail graphique sur les photos, tu les intègres à tes bandes dessinées, et voilà, le dessin est dans la photo et vice-versa.
Ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc de... C'est un truc de manga, quoi. Je me suis toujours permis de faire... C'est-à-dire que, en tant qu'auteur de bande dessinée ou en tant que mangaka, j'ai le sentiment que c'est difficile de tout dessiner. Enfin, faudrait être un véritable érudit du dessin pour savoir absolument tout dessiner. Mettons, moi par exemple, j'ai un style qui est très synthétique, très graphique. Si demain je veux faire des scènes de course-poursuite avec des bagnoles dans des circuits de balades, dans des villes, autant dire que je suis pas très bon dans ça, hein, à la base. Je suis même très loin d'être bon dans ça. Mais malgré tout, j'ai des envies de mise en scène. J'ai envie de raconter des choses. Donc, dans ce genre de situation, je n'hésite pas. Je m'aide de photographie libre de droit. Et puis, allons-y.
Oui, c'est tous les décors sont photographiques et toutes les personnages et tous les animaux, tout ça, c'est dessiné. Voilà, je préviens les lecteurs. Une question, est-ce qu'il y a de la place pour un auteur français de manga dans l'édition manga en France?
C'est une question complexe.
Oui, parce que...
Ouais.
On ne connaît pas vraiment d'auteur de manga français, c'est compliqué. Dans le webtoon, il y en a un petit peu.
Ouais, alors je pense que c'est compliqué de trancher aujourd'hui, tout simplement. Parce que des mangas français, il y en a. Définitivement, il y a des nouveaux auteurs chaque année, et il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup, et là c'est un jugement personnel. Hein. Je dis ça au doigt mouillé, hein. Donc prenez ce que je dis avec un galon de sel. Mais il me semble aussi que certains éditeurs sont un peu frileux à l'idée de sortir un manga français qui assume complètement son héritage francophone. Par exemple, héritage francophone, ça veut tout rien dire aussi.
Hein, donc, mais je comprends ce que tu veux dire.
Ouais.
Mais c'est ce qu'on m'avait répondu chez des éditeurs de webtoon, quand on leur proposait des webtoons dessinés par des Français sur des sujets français. Il y en a quatre qui m'ont répondu, non, on prend pas, parce que le lecteur, il veut des auteurs coréens, par exemple.
Ouais, en fait, c'est ça. Là, c'est là où moi, à titre purement personnel, j'ai un problème, c'est que les éditeurs, ils renvoient la patate chaude au lecteur. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que, quelque part, ce n'est pas à l'éditeur d'essayer d'ouvrir un marché?
Oui, c'est ça, si on leur propose rien, le lecteur ne va pas venir. Ça, c'est...
Oui,
ça, c'est...
et puis un éditeur, peut-être qu'un éditeur dans cette situation-là me dirait « Oui, mais on sait que ça ne va pas se vendre, donc pourquoi on le ferait ?» Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si personne ne prend de risque à part les auteurs, ça ne bougera jamais, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça c'est mon opinion personnelle.
Attends, je regarde le temps, parce que notre temps est quand même compté. Quoi. On arrive à la fin de notre discussion. Après Solitude, sur quoi tu vas travailler, sur quoi tu travailles, quel est le prochain album?
Alors actuellement, je n'ai rien de signé.
Si tu peux le dire, bien sûr.
Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai rien de signé pour le moment. Après Solitude, J'ai pas fait une année sabbatique, mais presque. Tout simplement, parce que c'est un projet qui a été difficile à mettre sur le papier. Mais même si on dit c'est une lecture rapide, c'est ceci, c'est cela, ça m'a demandé un travail énorme pendant une bonne année, quoi. Et depuis, j'avance des projets. Il y en a un en ce moment sur lequel je travaille, où on sort un petit peu de cette thématique de la violence faite aux enfants pour aller vers, je vous pitch l'histoire rapidement. Voilà, c'est une jeune maman qui vit tranquillement avec son enfant et son mari. Puis, elle est dans son appartement. Elle est rentrée plus tôt, et puis, qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous. C'est, le monde s'inverse. Je sais pas si c'est difficile. C'est peut-être pas facile à comprendre là comme ça, mais imaginez vous retrouvez collé au plafond, quoi. Genre, vous êtes collé au plafond, il y a tout qui se pète la gueule en même temps que vous, et vous regardez dehors, vous avez les voitures qui s'envolent au ciel, les gens, les machins, un truc. Et elle, elle va devoir survivre à ça dans un premier temps, parce que pas de bol, le frigo est quasiment vide. Après, il n'y a que de la nourriture avariée ou des trucs pas possibles, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Bref, elle va survivre comme ça pendant quelques jours. Mais ça, c'est que le début des emmerdes. Parce que le vrai problème, c'est que le monde, ensuite, il va revenir à l'endroit. Mais s'il revient à l'endroit, toutes les voitures, les gens, les objets de la civilisation, eh ben, ils vont s'écraser, tout simplement. Et elle, elle va survivre à ça et elle va partir à la recherche de son fils et de son mari. Comme je vous l'ai dit, c'est le début des emmerdes. Et puis, on vous a vendu Solitude avec une violence particulière. On retrouvera ça aussi dans cet album. Voilà.
Bon, on a hâte de retrouver les histoires de cette femme qui visiblement, ne va pas avoir une vie facile pendant un certain temps, quoi.
Oh, ça, c'est sûr. Vous savez quoi, ouais. C'est peut-être même encore pire que ce que vit Hélène en solitude. Ouais, c'est peut-être même pire. Donc, accrochez-vous.
Maxime, je te remercie. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous redire à la fois le titre, l'éditeur et le prix de vente?
Ouais, bien sûr. Alors, Solitude, qui va sortir le 4 juillet chez Omake Books et qui va coûter 14,90€.
Voilà, donc c'est quasiment donné pour un tel plaisir. Ça c'est mon avis totalement personnel. Donc je te dis à bientôt, Maxime, pour l'histoire de cette femme qui va passer un peu de temps en l'air.
Ouais, bah tout bientôt pareil, hein.
À bientôt.
Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de parler à ta radio. Voilà.
Au revoir, Maxime.
Allez, au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.